ont fait le plus pour le monde présent, sont précisément ceux qui pensaient le plus au monde à venir. Et il ajoute, c'est depuis que les chrétiens ont en grande mesure cessé de penser à l'autre monde, qu'ils sont devenus si inefficaces dans celui-ci. Et souvent on dit, oh là là, l'Apocalypse, le futur, à quoi bon, parlons des choses présentes. Mais il est dit dans Timothée, 2 Timothée 3,16, que toute parole est inspirée de Dieu. Comme si elle était soufflée, proférée par le souffle de Dieu, et que cette parole, toute écriture, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu bien entendu, soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Et aujourd'hui, dans notre passage, nous allons avoir des visions de l'apôtre Jean. Des lieux célestes, mais aussi de l'enfer. Il y a près de 160 références dans le Nouveau Testament à la destinée des méchants en enfer. Et près de la moitié de ces références viennent de la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ. L'enfer est un lieu réel. Et si nous n'avons pas Jésus-Christ en nous, si nous n'avons pas accepté, c'est notre destination finale. C'est un message surprenant dans notre monde actuel. Mais la vérité est souvent surprenante. Einstein, lorsqu'il a montré la relation entre l'énergie et la masse, il a surpris beaucoup de monde. Mais personne aujourd'hui ne viendrait contredire cette vérité. L'enfer est un lieu véritable. Lisons ensemble dans le chapitre 14 de l'Apocalypse. C'est donc, je vous rappelle, l'apôtre Jean. Et il nous dit, verset 1 du chapitre 14. Je regardais, et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme la voix de grandes eaux, comme le bruit d'un fort coup de tonnerre. Et le son que j'entendis était comme celui de joueurs de harpe jouant de la harpe. Il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre le cantique sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge. Ils sont irréprochables. On va nous arrêter là pour l'instant. Voyons donc cette première scène. Et je crois que c'est une scène en avant du déroulement des fléaux que nous avons commencé de décrire. Et nous voyons là Jésus sur la montagne de Sion à Jérusalem, d'où il régnera pendant le millénaire, pendant les 1000 ans où il régnera sur terre. Et c'est probablement à la fin de la période de la grande tribulation. Il est question de 144 000 personnes. Cela devrait vous rappeler un chiffre, le même chiffre que nous avons vu dans le chapitre 7. Il n'y a aucune raison de douter que ce ne sont pas les mêmes personnes. Ces 144 000, nous avions vu que c'était 12 fois 12 000 personnes. Des 12 tribus d'Israël. Et vous vous souvenez qu'ils avaient reçu un sceau sur leur front. Et que ce sceau les protégeait de la grande tribulation. Vous connaissez bien sûr l'histoire de Noé et du déluge. Vous connaissez peut-être moins l'histoire du patriarche Enoch. Enoch était un des premiers patriarches dont il est question dans la Genèse. Et il est expliqué qu'un jour, il avait été enlevé par Dieu. Parce qu'il avait marché avec Dieu et Dieu avait choisi de l'enlever sans qu'il passe par la mort. Noé, vous savez que Dieu lui avait demandé de construire un arche.
Non.
C'est-à-dire un énorme bateau pour y mettre des animaux et sa famille. Puis une fois que la porte de l'arche s'est refermée, le déluge a éclaté. Et le reste de la population terrestre a été exterminée. On pourrait dire que Enoch, c'est un type, une préfiguration, si vous voulez. Préfiguration de l'Église. Nous avons vu, en commençant l'étude de l'Apocalypse, que l'Église, elle était enlevée vers Jésus, par Jésus. Et qu'elle n'avait pas à subir la grande tribulation. Par contre, les 144 000, ils restent sur terre pendant la grande tribulation. Mais comme Noé, ils sont protégés. Noé est un type, une préfiguration des 144 000. Nous avons vu que Jésus-Christ est présenté par Jean dans son évangile. comme l'agneau qui ôte le péché du monde, il est aussi présenté comme l'agneau immolé dans l'Apocalypse. Christ, mais Christ est non seulement l'agneau, il est aussi le grand berger. Il garde ses brebis, il les sauve, il va chercher ceux qui se sont fourvoyés, ceux qui se sont perdus. Jésus disait dans Jean 17, « Je les ai préservés et aucun ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Dans Jean 10, il disait, « Je connais mes brebis, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » Amen. Jude 24, il est dit, « À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. » Il est vital pour votre vie chrétienne. Il est vital que vous compreniez que son pouvoir de garder n'est pas inférieur à son pouvoir de sauver. L'ennemi nous connaît. Il sait que nous tombons dans le péché. Il voudrait nous décourager. Il veut nous détourner du Seigneur. Nous convainc que nous sommes allés trop loin. Que nous avons excédé la patience du Seigneur. Si nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur, nous avons la vie éternelle et Jésus est capable de nous préserver. Amen. Si vous êtes tombé dans le péché, c'est ce que certains appellent être rétrograde. Si ça vous gêne, c'est un bon signe. Le pire, ce serait si vous vous en moquiez, vous ne seriez pas ici pour commencer. Il faut que vous sachiez qu'il est capable de vous préserver, de vous garder. Il est le grand berger. Il chante un cantique nouveau devant le trône. Verset 3. On peut penser qu'ils chantent sur la terre et qu'on les entend dans les cieux. Une autre interprétation, ce serait de dire qu'ils sont dans les cieux, dans la Sion céleste. Je préfère penser que nos louanges, comme nos prières, montent comme de l'encens vers le Seigneur. Et que les chants que nous avons chantés tout à l'heure, ils ont traversé les plafonds. On a vu que l'Église avait, dans le chapitre 5, un chant de noces. Ici aussi, ils ont un chant que personne d'autre ne peut, il est dit, ne pouvait apprendre. Il y a une différence avec ces gens. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ce sont des serviteurs. L'Église, elle, est l'épouse de l'agneau. Ce que Dieu va faire avec ces 144 000 rachetés, c'est merveilleux. Mais réjouissons-nous que nous avons, en tant qu'Église, déjà une position merveilleuse d'épouse de l'agneau. Ils sont
the bride of the Lamb. The bride.
Les prémices, il est dit que ce sont des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Verset 4. Les prémices, en anglais c'est traduit déjà, ça veut dire les premiers fruits. Au début des récoltes, les Juifs étaient commandés de présenter une partie de leur première récolte au Seigneur. C'était une promesse d'une moisson à venir. Et par ce geste, les Juifs qui respectaient ce commandement montraient qu'ils reconnaissaient que toute la moisson appartenait au Seigneur, toute la récolte. Nous sommes invités dans la dispensation du Nouveau Testament à faire la même chose. C'est un sujet dont on parle très peu à Calvary Chapel. Mais une façon de bénir le Seigneur, c'est de lui donner de vos premiers fruits. Et peut-être vous vous dites, mais moi j'ai pas de pommier chez moi.
Apple tree.
Mais le Seigneur nous demande de réaliser que tout ce que nous possédons lui appartient. Nos revenus mensuels, notre nourriture, il nous invite à en donner une portion pour lui montrer que nous réalisons bien que tout ce que nous avons vient de lui. Et ce qui est merveilleux, comme toujours, lorsque nous obéissons au Seigneur, c'est nous qui sommes bénis. Le Seigneur n'a pas besoin de nos revenus, de notre argent, de notre temps. Mais combien il peut nous bénir lorsque nous lui donnons ces choses ? Parenthèse refermée. Il est dit que ces 144 000 ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. On pourrait prendre ça littéralement au sens physique. Et ça voudrait dire peut-être qu'en raison de la pression de ces temps de grande tribulation et du ministère de témoignage qu'ils avaient, ils n'avaient pas de relation avec des femmes.
during this time of great tribulation and persecution, as they're going about doing their testimony, they do not have a relationship with him.
Mais souvent, la souillure dont il est question, l'adultère, avec, est plutôt à prendre au sens spirituel. Et souvent, le Seigneur condamne l'adultère avec le monde. Nous allons bientôt parler de la grande prostituée de Babylone. Qui représente le système religieux et commercial et politique qui rejette Dieu. Et dans ce sens-là, ces gens ne n'auraient pas été pollués par l'influence du monde. Et je crois que le Seigneur ne veut pas dire que les femmes sont souillées, que les hommes se souillent avec elles. Le Seigneur indique clairement que les relations sexuelles dans le cadre du mariage sont un cadeau de lui. Il nous invite très solennellement à ne pas sortir de ce cadre pour avoir des relations sexuelles qui impliquent toute la personnalité. Et Paul, dans 2 Corinthiens 11, dit qu'il est jaloux au sujet de l'Église. Il dit, je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Donc, c'est les hommes et les femmes qui constituent l'Église qui sont une épouse chaste. C'est vrai que quelquefois ça peut être difficile pour des hommes de s'identifier à une épouse. Mais c'est ce que la parole explique. L'Église, composée d'hommes et de femmes, c'est l'épouse. Et je crois que si on a du mal à comprendre, c'est parce qu'on prend l'illustration pour la réalité des choses. Je veux dire par là qu'en fait, le mariage, la relation entre hommes et femmes a été donnée par le Seigneur pour nous montrer la profondeur, l'intimité de la relation entre l'homme et Dieu. Et donc, nous pouvons nous réjouir d'être un jour la chaste épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, les hommes. Continuons, verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui la gloire, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Arrêtons là. Nous allons voir plusieurs anges en succession rapide. Et il y a cet ange qui annonce à tous les habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple, l'évangile éternel. Ça nous devrait nous rappeler un passage de Paul dans Galates 1. Versets 6 à 9, dans lequel il est dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annoncez un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire mis à l'écart, condamné, sous le coup de l'interdiction, rejeté. Maudit, si on annonce un autre évangile, même si on est un ange du ciel. Donc l'évangile éternel dont il est question, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile du royaume. C'est la bonne nouvelle que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous souvenez Jésus, les derniers mots dans l'évangile de Matthieu, c'était l'ordre à ses disciples d'annoncer cette bonne nouvelle dans le monde entier. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a un passage dans Matthieu 24 où Jésus, au verset 14, explique que la bonne nouvelle du royaume, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Il est intéressant de savoir que beaucoup de mouvements missionnaires se disent qu'il faut annoncer l'évangile pour hâter la fin des temps. Je ne crois pas que ce soit biblique. Il est tout à fait biblique d'annoncer la parole à tous, toutes les nations. Mais je ne crois pas que Dieu attende qu'on ait terminé pour déclencher les événements de la fin. Parce que là, il nous explique que ce sera un ange qui terminera le travail. C'est peut-être pas très grave comme nuance. Mais il faut se garder d'annoncer l'évangile par contrainte. Autre que l'amour de Dieu dans nos cœurs qui déborde. Si on se dit, il y a encore 117 pays à toucher. Zoé, Clara, il faut y aller. Le Seigneur peut bénir, mais je crois que notre désir doit être dans notre cœur de partager ce que nous avons reçu. Il pourra terminer le travail avec un ange. Certains pensent que c'est peut-être la description des satellites maintenant. Mais je crois qu'il s'agit vraiment d'un être angélique. Encore une fois, ce qui nous motive, ça ne doit pas être la culpabilité, la manipulation, mais l'amour et l'obéissance. Amen. Cet ange dit aussi de donner la gloire à Dieu. De se prosterner devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et l'esprit. L'évolution a fait beaucoup de mal à l'homme. Je crois que dans peu de temps, on regardera cette théorie et on se demandera comment elle a pu avoir une influence aussi forte, fondée sur si peu de faits. Je crois que si elle a eu tellement d'influence, c'est qu'il y a une dimension spirituelle. Et l'ennemi veut que nous louions la création et non pas le Créateur. Et si nous voyons la création et que nous avons un peu de raisonnement encore et pas de parti pris, alors bien sûr qu'il doit y avoir un Créateur. Et c'est lui qu'on doit louer. J'ai déjà pris l'exemple. Imaginez que je prépare un joli poème pour Nancy. Et un jour, je lui donne ce petit poème. Elle le lit. Oh, qu'il est beau ce poème! Regarde comment ça rime. Et ces allitérations, ces sons qui vont ensemble. Je crois que je vais le mettre dans un cadre et on va le mettre au milieu de la salle de séjour. Chaque jour, elle se recueille devant le poème. Vous riez? Mais c'est ce que nous faisons lorsque nous disons que Dieu n'est pas créateur. Disons, le hasard est merveilleux. Les millions et billions d'années ont permis que l'œil évolue, que le système de défense contre les agressions microbiennes soit en place, nous sommes aussi ridicules que si quelqu'un admirait le poème sans remercier celui qui l'a écrit. Verset 8. Un second ange suivit, disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son inconduite. Nous allons parler au chapitre 17 en détail de Babylone la grande. Et nous avons affaire là à une prophétie. C'est au passé, mais c'est parce qu'on se projette dans le futur en constatant que Babylone est tombée. Nous verrons encore une fois que c'est le système de valeurs, le système religieux, politique, commercial qui rejette Dieu. Le verset 9 nous dit qu'un autre ange, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. J'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Nous avons ici une allusion, une description de ce que sera l'enfer, de la colère de Dieu, cette fumée des tourments qui monte au siècle des siècles. Il est dit dans Hébreux 10, 31 qu'il est, c'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant. Nous avons du mal à imaginer ces choses. Et je ne vous cache pas que c'est difficile d'annoncer. Il y a un endroit où ceux qui n'auront pas reçu Jésus-Christ recevront la fureur de Dieu. La fureur de Dieu versée sans mélange dans la coupe de sa colère, ce n'est pas quelque chose qui réjouisse le cœur. Être tourmenté dans le feu et le soufre, un tourment, une peine physique, morale, qui dure au siècle des siècles. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Mais le Seigneur nous avertit de ne retrancher ni d'ajouter quoi que ce soit au message de l'Apocalypse. Si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. À la fin.
19.
Notre problème, c'est que nous avons appris que Dieu est un Dieu d'amour. Et quelque part, on se dit, s'il laisse ses châtiments éternels, où est l'amour? Pourquoi ne peut-il pas pardonner? Encore une fois, c'est parce qu'il est un Dieu trois fois saint. Il ne peut pas tolérer le péché. Ces passages veulent nous apprendre l'horreur du péché. La seule solution que Dieu nous ait donnée, c'est Jésus-Christ. Et ça devrait nous donner une indication de la gravité de la maladie. Si vous allez voir le docteur et qu'il vous donne de l'aspirine, vous pouvez ressortir sans trop de soucis. Si vous ressortez du docteur avec une prescription pour des rayons et de la chimiothérapie, vous savez qu'il y a quelque chose de très grave. Et le remède, la gravité du remède montre la gravité du mal. Et il a fallu pas moins que le Fils de Dieu pour guérir la maladie du péché. Le péché, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas tolérer. Il doit le juger. Il l'a jugé sur Jésus-Christ. Mais si nous n'allons pas en Jésus, nous allons recevoir ce jugement. Mais attention, l'amour de Dieu est présent. Il ne cesse pas de nous avertir par ses anges, sa parole. Il est dit que Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Cet endroit terrible, l'enfer, n'a pas été préparé pour les hommes. Il a été préparé pour le diable et ses démons. Et la seule façon pour un homme d'y arriver, c'est en suivant le diable jusqu'au bout, en rejetant Jésus-Christ. Ce n'est pas Dieu qui choisit de vous mettre en enfer, c'est vous-même qui choisissez de suivre Satan en enfer. On a du mal à concevoir d'un endroit de tourment éternel. Parce que nous savons qu'il y a souvent, nous sommes habitués à de l'espoir. Nous avons l'habitude, quand les choses vont très mal, l'espoir qu'elles vont s'améliorer nous fait persévérer. Il est difficile d'avoir à abandonner tout espoir. L'enfer, dans certains passages, est décrit comme un lieu où il y a des flammes, mais c'est aussi un endroit d'obscurité. Et un des célèbres pasteurs du siècle dernier en Angleterre donnait une description de l'enfer. En disant qu'il n'y aurait aucune raie de lumière qui arriverait. Nous ouvririons les yeux, mais rien, ce serait le noir. que la durée est inconcevable. Il disait que si toute la terre était réduite en un grand bloc de sable, et qu'un oiseau vienne piquer un grain de sable à la fois pour l'amener ailleurs, quand il aurait terminé de transporter ainsi toute la terre grain de sable par grain de sable, ce sera encore comme seulement une goutte d'eau dans l'infinité de l'éternité. Il vaut mieux être martyr pour ces gens pendant la grande tribulation que de se retrouver dans ce lieu de tourment éternel. Et bien sûr, il est infiniment préférable de donner sa vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui. Peut-être que vous dites, moi j'y crois pas. Est-ce que vous êtes prêt à parier? À parier votre éternité sur votre conviction que ça n'existe pas? À croire que vous avez raison, mais que Jésus-Christ a tort? Tournez-vous vers Jésus. Nous allons terminer 14 à 20 rapidement. La moisson et la vendange. Verset 14 à 16. Je regardais, voici une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait une couronne d'or sur la tête et une faucille tranchante à la main. Un autre ange sortit du temple en criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, l'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, il avait lui aussi une faucille tranchante. Un autre ange qui avait le pouvoir sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. L'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la fureur de Dieu, et la cuve fut foulée hors de la ville. Du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Deux visions. La première de 14 à 16, c'est la moisson des saints de la tribulation. Le Fils d'homme qui a une couronne d'or, c'est Jésus-Christ. Par contre, des versets 17 à 20, c'est la vendange des méchants. C'est l'horrible image de grains de raisin pressés dans une cuve à fouler. Nous verrons plus loin qu'en fait, c'est sans doute une vision de la bataille d'Armageddon. Ces 1600 stades, ça représente près de 300 kilomètres. Et ça, c'est toute la longueur de la Palestine. Et cette bataille va se dérouler là, à la fin des temps. Et il est dit que sur 300 km et 1,20 m, il y aura du sang. Il est question dans un passage qu'il y aurait 200 millions d'hommes dans ce carnage. Millions. Et quelqu'un s'est empressé de faire le calcul. prenant la largeur de la vallée qui se trouve là-bas. La longueur, la hauteur, en disant voilà le volume total. Et puis ils ont dit s'il y a 200 millions d'hommes et je crois que c'est 5 litres de sang ou 5 à 6 litres de sang, ils ont trouvé un nombre. Ils ont dit ça pourrait jamais monter à 1,20 m. Puis ils ont réalisé qu'ils oubliaient le fait qu'il y aurait les chevaux et les hommes dans ce carnage. C'est horrible. Et si Dieu nous donne ces images, ces précisions, c'est pour donner d'abord une sainte horreur du péché. Un sentiment d'urgence pour ceux qui nous entourent. Vous promenez à Nice Étoile. Vous pouvez demander au Seigneur de vous montrer la destinée de ces gens sans Dieu. De voir la fumée de leur tourment qui monte aux cieux sans arrêt. Et je vous assure que votre timidité va s'arrêter. Je connaissais un jeune missionnaire qui était parti en Turquie et qui pleurait en racontant de ses villages où il n'y avait aucun témoignage chrétien parce qu'il voyait avec les yeux de la foi c'est la fumée des tourments qui montait jusqu'aux cieux. Que le Seigneur puisse nous donner cette réalité des choses dans nos cœurs. Le temps est court. Prions. Seigneur, c'est vrai que nous n'aimons pas parler de ces choses. Mais Seigneur, toi, tu n'as pas hésité à nous les faire connaître. Et là encore, nous savons, Seigneur, que c'est pour notre bien. Seigneur, merci de nous donner une sainte horreur du péché. Seigneur, je te le demande dans ma vie. Souvent, nous pensons que ce sont des petites choses. Mais Seigneur, rappelle-nous que tu as dû envoyer ton Fils mourir sur la croix. Et Seigneur, nous te demandons de nous motiver pour partager notre foi. Avec amour. Comme des voisins, des parents, des amis qui avertissent leurs parents, leurs amis, leurs voisins d'un danger imminent, réel. Merci Seigneur de ce que tu nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse, de contrôle de soi, Seigneur. Et pendant que nous prions, peut-être parmi vous, il y en a qui ont entendu la vérité de ce message pour la première fois. Et peut-être que vous réalisez que vous avez besoin de prendre refuge en Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit qu'il frappe à la porte de notre cœur. Peut-être qu'aujourd'hui vous pensez qu'il a donné des coups de pied dans la porte de votre cœur. Il ne veut pas vous forcer la main. Et il veut vous avertir du danger. Si c'est votre cas, je vous demanderai de lever la main pendant que nos têtes sont baissées. Pour que nous puissions prier ensemble une prière. Peut-être que vous vous dites, oh, c'est ridicule tout ça. Le Seigneur nous dit que le moment du salut, c'est aujourd'hui, pas demain. Demain, c'est le mot préféré du diable. Car il sait que son temps est compté. Nous allons prendre un moment de silence. Si vous sentez ce sentiment dans votre cœur, n'hésitez pas. Seigneur, tu connais les cœurs. Te demandons de continuer de toucher les cœurs, Seigneur. Et Seigneur, donne-nous davantage le désir de partager l'Évangile. Seigneur, tu dois ouvrir les yeux. Mais tu nous demandes de parler. Tu nous demandes de vivre selon ta parole, Seigneur. Seigneur, nous te supplions de nous aider dans cette tâche. Nous voyons l'opposition du mal. Nous voyons comment l'ennemi a mis des bâtons dans les roues pour la campagne de Louis Palau, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur, par le nom de Jésus. Amen. Amen. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur. Sois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour.